En l'état actuel des informations, aucun lien ne peut être établi avec un tir policier, a réagi un porte-parole de la police. La petite fille se trouve toujours dans le coma. Et puis un mot de football pour terminer. À l'Olympique de Marseille, Didier Deschamps reste entraîneur la saison prochaine à l'OM.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Sandrine Mercier.
Peut-on voyager en Colombie tranquille, décontracté, et quel est le risque d'y rester contraint et forcé? Voilà les questions qui ressortent des forums de voyageurs. Alors, ce soir, toutes les bonnes raisons d'aller en Colombie avec un reportage à Cartagène. Je passe vous prendre à partir de 21h.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Chers auditeurs, je vous parle de New York où le procès DSK vient de se terminer. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est Madame Diallo, la femme de ménage, qui vient d'être condamnée à 70 ans de prison pour effraction de chambre d'hôtel et interruption de douche. DSK quitte donc le tribunal libre et ses frais de justice vont lui être intégralement remboursés par l'État français, par l'intermédiaire de Madame Lagarde.
C'est drôle, le monde. On soupçonne le concombre de causer la mort de 40 personnes en un mois dans toute l'Europe. Du coup, plus personne ne mange du concombre. Pourtant, chaque jour, rien qu'en France, il y a quasiment 20 morts sur les routes. Les Français roulent toujours. Le tabac fait 200 victimes quotidiennes. Ça fume tant que ça peut. En fait, tant que ça veut, car c'est ça la différence. La bagnole et la cigarette, c'est un acte volontaire. On connaît les risques, mais on est fort, on roule, on fume, on assume, on prend le risque. Alors que le concombre, on prend rien. On maîtrise pas ce qu'il y a dans le concombre. C'est terrible, le concombre. On veut bien montrer sa virilité au volant ou la clope au bec, mais face au concombre, notre virilité s'envole. On tremble et on a tellement peur qu'on n'en mange plus. La puissance gauloise ébranlée par le concombre et bientôt par le soja. Imaginez la terreur des Français face au soja. Heureusement, pour nous rassurer, il y aura toujours le tabac. C'était un message de Pascal, de Lyon.
Ce samedi, dans le Figaro Magazine, un titre bien vendeur. L'assistana, un mal bien français. L'assistana, voyons, c'est quoi l'assistana ? L'assistana, est-ce que ça ne pourrait pas être, par exemple, pour un journal, comme le Figaro Magazine, de recevoir des subventions de l'État français, de bénéficier d'une TVA réduite à 2 et quelques pourcents, par exemple ? Ah, bah oui, tiens, peut-être que l'assistana est vraiment un mal bien français. Salut le Figaro Magazine ! Ciao !
Un jour de novembre 1947, les Juifs de Palestine ont attendu le cœur serré le résultat d'un vote sensible. L'État d'Israël est né ainsi. Peu importe que les Arabes de Palestine aient alors refusé le leur. Ils le veulent aujourd'hui et il faut leur en reconnaître le droit et leur en donner les moyens. Élie Barnavi, mai 2011, dans Marianne. C'est Jocelyne, de l'Ardèche Drôme.
Bonjour, bonjour à tous. Un petit message de solidarité à tout le personnel de la clinique Saint-Jean-du-Languedoc à Toulouse, qui sont en grève depuis au moins 7 jours pour défendre de meilleures conditions de travail et pour défendre un meilleur niveau de vie. Aujourd'hui, ici, on est en danger. Les patients sont en danger aussi. Donc voilà, un petit message de solidarité à tout le personnel de la clinique Saint-Jean-du-Toulouse. Résistez, continuez à résister.
Bonjour Daniel, c'est Jean-Pierre. Je suis scandalisé parce qu'on parle de tennis, on parle de rugby, on parle bientôt du Tour de France, mais on ne parle jamais des tournois de belote. Et j'aimerais bien qu'on donne les résultats des tournois de belote. Ça serait très important et très judicieux de les diffuser sur France Inter.
Voilà, et ben on va leur dire une très très bonne idée, effectivement, d'avoir des résultats des tournois de belote. Aujourd'hui, une émission un peu particulière. Vous savez qu'il y a une grosse actualité aux États-Unis et là-bas, si j'y suis, risque d'être interrompu d'ici à 16h par nos confrères qui vont nous donner des informations sur ce qui se passe. On devait aller à Marina Leda, en Espagne, à Séville, eh bien, on ira demain. Aujourd'hui, c'est la même méthode que le gavage des oies. Ça s'appelle la surinformation, la surmédiatisation. Tous ensemble et en même temps, des milliers de pauvres journalistes vont dire les mêmes choses et montrer les mêmes choses qui se résument à trois lettres. DSK, alors si vous avez quelque chose d'un peu ragoûtant à faire passer, une enquête, une loi, eh bien profitez-en, tout le monde regarde ailleurs. Par contre, si vous devez mourir, eh bien attendez demain, aujourd'hui personne ne parlera de vous, c'est sûr. L'affaire DSK remue profondément le cocotier médiatique et le cocotier national, c'est une occasion de mesurer l'état du machisme ambiant et de la goujaterie de nos donneurs de leçons. C'est aussi une occasion d'assister à une belle démonstration de tartufferie médiatique que les grands patrons de presse pratiquent depuis fort longtemps, depuis que la presse existe. Ça consiste à faire la morale d'une main et de l'autre à caresser la queue du cochon qui sommeille, comme dans ces enquêtes où l'on dénonce l'horreur de la prostitution en donnant force, détail, tarif, adresse et position. Pourquoi je dis ça? Parce que le 16 décembre 2010, là-bas, si j'y suis, vous a présenté un reportage qui se passait au Kivu, dans le nord-est du Congo, dans un village où nous étions rendus avec Guy Van Ktil, un village qui s'appelle Luvungi, où on a enregistré les témoignages de femmes qui, entre le 30 juillet et le 3 août, en l'espace de 3 jours, ont été violées massivement. 200 femmes ont été violées dans ce petit village du Kivu. On en avait parlé, on a dû recevoir un ou deux messages de compassion et de stupeur sur le répondeur de la basse si j'y suis. J'ai entre les mains un livre de Louis Guinamard qui s'appelle « Survivante » sur les femmes violées dans la guerre en République démocratique du Congo et qui fait état, depuis 1996, de 200 000 cas de viol de femmes. Que je sache, ce livre n'a pas beaucoup d'écho. Il est édité par le Secours catholique et par Caritas. Voilà, des rapprochements que l'on peut faire. On peut faire aussi d'autres rapprochements dans cette affaire DSK. Un rapprochement entre l'Amérique et nous. Ce vieux rapport de vassalité et d'admiration, de rejet et de fascination entre les États-Unis et notre petite et charmante hexagone. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, c'est que ça s'entend dans la chanson française, dans la façon dont la chanson en France parle de l'Amérique. Alors, comme aujourd'hui, on risque d'être interrompu par nos confrères pour avoir des nouvelles de ce qui se passe à New York, eh bien, on va consacrer cette heure à l'Amérique vue par la chanson française. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Allô, bonjour Daniel. J'appelle parce que je viens d'entendre le message d'une auditrice sur le répondeur à propos de la vente présumée, de la soi-disant vente des dunes de Cabo Polonio en Uruguay. Et je voulais faire deux précisions. La première, c'est un détail. C'est le président uruguayen s'appelle José Mujica et non pas Eduardo, mais bon, ceci est accessoire. Ce qui est plus important de préciser est que si, je dis bien, si des fractions de cette zone sont finalement désaffectés du patrimoine naturel, c'est pour les confier à l'Institut National de Colonisation, qui est un organisme chargé de distribuer des terres à des paysans qui n'en ont pas, et surtout pas à des touristes plus ou moins fortunés. Je me demande d'ailleurs si les promoteurs de la pétition, parce que l'auditrice a fait mention d'une pétition qui est partie d'Espagne apparemment, ne seraient pas eux-mêmes des touristes, comme on en voit beaucoup, qui viennent d'Europe ou d'ailleurs, et qui craignent éventuellement de voir le joli paysage agreste dont ils se délectent en été, peuplé d'indésirables agriculteurs. Bref, la nature est si belle et les paysans sont si moches, n'est-ce pas? Allez, au revoir, salut à tous.
Bonjour à tous et à tous. À Anduze, dans le Gard, nous avons un café repère concernant les marchés financiers et l'énergie qui s'appelle De la finance mondiale au gaz de schiste. À 19h30, lundi 6 juin, au Triboulet, rue Bouquerie, nous aurons une soupe, un coup à boire, des tartines, et après, un débat avec Agnès Bertrand, qui a écrit l'OMC, Le pouvoir invisible, en 2003. Voilà, De la finance mondiale au gaz de schiste. Bonjour à tous et gros bisous. Au revoir.
Bonjour tout le monde, le prochain rendez-vous du Café Repère de Saint-Péray en Ardèche, c'est ce soir, toujours à 20h et toujours à l'hôtel Badet. Nous parlerons des indignés d'Espagne, de Grèce et d'ailleurs. Alors si l'indignation vous gagne, n'hésitez pas à venir en parler avec nous, venez nombreux, à 20h à l'hôtel Badet. C'était Cyril d'Ardèche, allez ciao.
Oui bonjour, j'aimerais rejoindre le clan de Paul. Alors, je me présente, bonjour, je m'appelle Béatrice, ça c'est mes papiers suisses, et je dis bonjour à Mekana Béatrice, et ça c'est mes papiers roumains. Et comme dit Paul, et comme on dit, Marine, je t'emmerde.
Bonjour chers AMG du Champsaur, du Val-Golmar et d'ailleurs. Notre prochain café repère aura lieu ce mardi 7 juin à 20h. Pour ce rendez-vous, nous nous attaquerons à l'oligarchie, mythe ou réalité, quels enjeux pour la démocratie, comment finir avec ce système. Nos débats se baseront sur les excellents travaux d'Hervé Kempf et de Monique et Michel Pinson-Charlot, qui seront présentés et éclairés par François Beaurepaire. Attention, exceptionnellement, ce rendez-vous est fixé à 20h, toujours au café L'Aquilon, place du Chevreril à Saint-Bonnet-en-Champsaur. À bientôt.
Tu crois?
Mais non, il y en a pour les Américains, les Américains par ci, les Américains par là, le moto bicycle, le chauffeur d'hélicoptère, je peux plus rien toucher.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Madeleine, c'est mon Amérique à moi.
Flight number 2, arriving from.
Si les ricains ne sont pas là.
Amérique, quel pays au monde aura été montré, autant filmé, autant raconté, autant chanté que l'Amérique si les ricains n'étaient pas là? Comment pouvez-vous ne pas être américain? Par malheur, comme moi, vous êtes né à Évreux, à Limoges, à Romorantin, loin de Broadway, loin d'Hollywood. Dans une journée de radio, dans une journée de télé, il y a les infos et il y a les programmes. L'important, c'est les infos, ce qui se passe dans le monde, ce que vous devez en penser. Et le reste, les programmes, c'est divertissement, gaudrioles, feuilletons, chansons. Or, c'est là justement que les idées passent, les évidences, les qui va de soi, le cliché, le préjugé, le sens commun. C'est dans ce ressassement des masses médias qu'opère la colonisation mentale. L'idée reçue, c'est par là qu'on la reçoit. Sans filtre, sans critique, gentiment, en rêvant, rêve, sans doute le mot le plus employé concernant le rêve américain. Le rêve, c'est le sommeil, c'est l'hypnotiseur, c'est la définition du cinéma hollywoodien, la propagande par le rêve. Propagande ? Mais montrez-nous la propagande, montrez-nous la manipulation. Toute résistance est voué au ridicule. La moindre réticence fait de vous un anti-américaniste primaire, autrement dit un ringard amer, coincé, un être borné, xénophobe et peut-être un peu antisémite, un communiste, stalinien indécrottable, qui n'a pas compris que la guerre froide est finie, ou alors, pire encore, un souverainiste, un nationaliste béret baguette vitupérant ou un astérix attendrissant. Mais surtout, n'ayons pas de doute sur le modèle américain. Vous n'y échapperez pas de gré ou de force, on vous intéressera. Alors, pour se préparer, pour se consoler, la musique américaine, telle que nous, les Français, on la voit.
Mon Amérique à moi, c'est jamais les gratte-ciel, ni les flics, ni les fusils, ni la drogue, ni le sang. C'est plutôt les enfants qui, sur leur vélo rouge, distribuent les journaux aux portes des maisons. Il y a des bouteilles de lait sur tous les paillassons.
Voilà qui donne un sens au mot américanisation. La musique d'Amérique, ça date pas d'hier, au pays de la gaudriole, c'est-à-dire le nôtre. L'anti-américanisme a commencé il y a bien longtemps et justement à travers la musique. Leur musique, c'est pas de la musique, c'est du bruit. Mayol, 1906.
La musique américaine, chantée par Mayol. Disque Abga. Jadis au music hall, c'était la coutume, les revues avaient esprit. Maintenant on ne voit plus que des décors, des costumes, on en sort tout abruti. En fait, couplet, rien que des danses d'Amérique, pas du dindon, pas du cochon. Et si vous dites que ça n'est pas très comique, tous les gens chics vous répondront. Oh, la musique américaine, c'est charmant, c'est bien plus amusant que la musique parisienne. C'est fou, oh, c'est doux, et c'est toujours la même danse monotone qui reprend constamment, en soirée, au téléphone, car continuellement, on entend, allô, allô, on ne comprend rien, c'est le genre américain. J'ai fait connaissance d'une américaine qui n'est pas de cette opinion. Dans le dodo, il faut voir comme elle se démène quand je fredonne ma petite chanson. Oh, tu chantes bien, dit-elle avec ivresse, c'est plus meilleur qu'à Chicago. Yes, ton music, c'est une caresse, recommence ton petit morceau. Oh, la musique parisienne, mon coco, c'est bien plus rigolo que la musique américaine. Encore, plus fort, j'ai le cœur en feu, je réponds, te fais pas d'île, mon bébé. Si t'as le cœur si chaud que ça, c'est bien facile, tu n'as qu'à aller le faire tremper. Allô, allô, et tu verras, ça te le rafraîchira.
L'Amérique, 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 l'Amérique dans la chanson française aura été presque autant chantée que l'amour. En 1918, ils sont déjà là, ils nous ont déjà sauvés une première fois. Mais en 1933, 1936, le charme n'a pas encore opéré. La crise de 29 est dans les mémoires, la crise s'étend à l'Europe. C'est les raisins de la colère, c'est les images de l'Amérique en galère. Voilà comment Fréhel, dans un film fameux, chantait l'Amérique et comment Gilles et Julien, en 1933, s'en prenaient au dieu dollar et à ce dieu qui, dans les églises, était déjà une marchandise.
De
l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Il faisait rêver les gueux en loque, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau bat la breloque, le dollar. Mais par milliers de la vieille Europe, quittant sa ferme, son échoppe, où les bas quartiers interlopent, on part, ayant vendu jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le vieux dans son église, le vieux dollar. Et déjà dans la brume du matin blafard, ce soleil qui s'allume, c'est un gros dollar. Il éclaire le monde de son feu criard, et les hommes à la ronde l'adorent sans retard. Ne faire pas le nord, vous pensez, juste le temps de s'élancer, de s'installer, d'ensemencer, ça part. On joue, on perd, on gagne, on triche, pétrole, chaussettes, terrains en friche, tout s'achète, tout se vend, on devient riche, dollar. On met les vieux pneus en conserve, et même afin que rien ne se perde, on fait de l'alcool avec la dollar. Jusqu'au bon Dieu qu'on mobilise et qu'on débite dans chaque église, aux enchères comme une marchandise à coups de dollar. Mais sur la ville ardente, dans le ciel blafard, cette figure démente, c'est le dieu dollar. Pas besoin de réclame, pas besoin d'effort. Il gagne toutes les âmes parce qu'il est en or. Auto, phono, radio, machine, truc chimique pour faire la cuisine. Chaque maison est une usine standard. À l'aube, dans une forme de série, on va vendre son épicerie. Et le soir, on retrouve sa chérie standard. Alors, on fait tourner des disques, on s'abrutit sans danger, puisqu'on est assuré contre tout risque. Mais là, la vie qui tourne comme une roue vous éclabousse et vous secoue. Il aime vous rouler dans la boue, le dieu dollar. Quand la nuit sur la ville pose son manteau noir, dans le ciel immobile veille le dieu dollar. Il hante tous les rêves des fous d'ici-bas, et quand le jour se lève, il est encore là. On devient marteau dans leur folie, les hommes n'ont plus qu'une seule envie, un suprême désir dans la vie de l'or. S'ils s'écoutaient par tout le monde, on en sèmerait à la ronde au fond de la terre profonde. Encore, on en nourrirait sans relâche les chèvres, les brebis et les vaches, afin qu'au lieu de lait, elles crachent de l'or. De l'or partout, de l'or liquide, de l'or en gaz, de l'or solide, plein les cerveaux et plein les vides, encore, encore. Mais sous un ciel de cendre, vous verrez un soir le dieu dollar descendre du haut son perchoir, et devant ses machines, sans comprendre encore, l'homme crevé de famine sous des montagnes d'or.
Normandie, débarquement, chewing-gum et bas de soie, c'est à la libération que l'Amérique séduit la vieille Europe jusqu'à l'os. C'est la folie, un éclatement dont on se souvient toujours. Il faut, si on est chanteur, absolument prendre un nom américain, chanter des thèmes américains. C'est la naissance de la pin-up, la platinée mamelue.
Il la vit, oh ce qu'elle était bien. Elle arrivait tout droit d'Amérique. Elle lui demanda l'adresse de chez Paquin. Elle était tellement sympathique. Ils essayèrent une petite conversation. 3 heures après, elle lui donna ses impressions. Vous n'avez pas le rythme américain. Vous ne mâchez pas le chewing-gum et le baseball ne vous dit rien. Vous n'avez pas du tout ce son indien. Benny Goodman, Duke Ellington, tout ça c'est loin. Évidemment, vous connaissez les petits mots au cœur qui font plaisir au cœur. Et vous paraissez tout surpris si sans prévenir on vous dit venez danser le boogie, 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 boogie. Vous n'avez pas le rythme américain. Mais je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Il l'attendit ce jour-là plein d'entrain. Comme elle aimait les endroits où l'on danse, il l'emmena dans un dancing mondain, pensant qu'il aurait plus de chance. Mais à peine avait-il commencé à danser qu'elle lui dit danser donc ailleurs que sur mes pieds. Vous n'avez pas le rythme américain. Vous ne mâchez pas le chewing-gum et le baseball ne vous dit rien. Vous n'avez pas du tout de son indien. Benny Goodman, Duke Ellington, tout ça c'est loin. Évidemment, vous connaissez les petits mots moqueurs qui font plaisir au cœur. Et vous parlez, c'est tout surpris, si ça me fait venir, on vous dit, venez danser le boogie, 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 boogie. Vous n'avez pas le rythme américain. Mais je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Elle vint chez lui, oh ce qu'elle était bien. Tout simplement pour une petite visite. Ce qui se passa, nul n'en sut jamais rien. La lumière s'éteignit tout de suite. Mais il dut cette fois-là tellement bien s'expliquer qu'on l'entendit murmurer d'une voix passionnée. Vous n'avez pas le rythme américain. Oh, vous ne mâchez pas le chewing-gum, le baseball. Oh, c'est très bien, je ne sais pas si c'est le rythme cubain. Mais derrière ça, Duke Ellington, oh, c'est très loin. Et avec ça, vous connaissez les petits mots moqueurs qui font plaisir au cœur. Mais où avez-vous donc appris ce que vous faites cette nuit quand vous dansez le boogie, boogie, boogie? Vous n'avez pas le rythme américain. Mais je reviendrai chez vous demain matin. Oh yeah, demain matin. Demain matin. Oh, tout c'est bien.
Lili Fayol, 1945, c'est le boogie boogie, c'est pas encore évidemment le rock'n'roll, mais Hollywood est passé par là. La fabrique à rêve a montré, a séduit évidemment la planète tout entière. C'est la propagande par le rêve, mais c'est aussi les normes de l'Empire qui seront les normes morales de l'Empire qui sont montrées à travers ce cinéma, toujours dans, à l'intérieur même du divertissement, de la distraction, de l'illusion. Hollywood nous en met plein la vue. Et nous, dans notre France à l'époque encore rurale et ouvrière, on tombe amoureux du gardien de vache, le cow-boy.
Quand allons-nous nous marier, mon cowboy adoré.
Voilà, il est 15h30 sur Inter, je vous le disais tout à l'heure. On retrouve pour un flash spécial Patrick Boyer.
Édition spéciale sur France Inter.
Non coupable, Dominique Strauss-Kahn plaide non coupable. France Inter est en direct du tribunal de New York pour ce développement attendu et ô combien symbolique dans l'affaire Strauss-Kahn. Nous allons faire le point sur cet épisode judiciaire. Merci à Daniel Mermet de nous céder un peu de son temps pour vous informer au plus vite. Franck Cognard est en direct de New York avec Fabienne Sintès au tribunal de Manhattan. À Paris, nous sommes avec Ron Sofer, avocat américain. Est en ligne Antoine Garapon, juriste français renommé, et Barbara Willez, professeur à Paris 8. Nous sommes aussi avec Jean-Philippe Deniaud de France Inter. Donc, Dominique Strauss-Kahn, accusé de crimes sexuels, avait rendu vous tout à l'heure au tribunal pénal de Manhattan pour la troisième fois en trois semaines. Il est entré par la grande porte du tribunal, à la différence des deux autres audiences, puisqu'il est en liberté conditionnelle cette fois-ci. Dominique Strauss-Kahn est arrivé au tribunal avec Anne Sinclair à son bras, mais sous les huées des femmes de chambre de New York, leur syndicat avait appelé à une manifestation contre les clients indélicats. Le juge a proposé que l'on lise les chefs d'inculpation. La greffière s'est exécutée. Il a demandé à la défense ce qu'elle plaisait. En direct de New York, Franck Cognard, quelle a été la réponse de la défense?
Eh bien, sans surprise, ça a été non coupable, évidemment, aux sept chefs d'inculpation que le procureur de New York, Cyrus Vance, a retenu contre Dominique Strauss-Kahn jusque-là. Non coupable, c'était attendu, on ne voyait pas très bien comment il pouvait plaider autrement. Déjà, ses avocats l'avaient annoncé. Et puis, c'est aussi la logique de la procédure américaine. Quand on ne connaît pas encore le fond du dossier, ce qui est le cas aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt, évidemment, à plaider coupable. Donc, non coupable, c'était attendu. Et maintenant, va débuter cette nouvelle phase que la justice américaine appelle la discovery. C'est cette phase qui sépare l'audience d'aujourd'hui et le procès dans les 6 à 8 mois qui vont venir. Durant cette période, les avocats de la défense et l'accusation vont pouvoir s'échanger leurs éléments à charge et à décharge afin de mettre en doute les preuves que chacun exhibe devant l'autre. Il y aura des petits rendez-vous judiciaires qui consisteront essentiellement à contester la recevabilité d'une preuve, par exemple. Et cette guérilla quelque part judiciaire va se doubler aussi d'une forme de guerre médiatique, puisque vous savez, le procès se tiendra devant des jurés new-yorkais, et pour l'accusation comme pour la défense, il est important de sensibiliser déjà l'opinion, alors soit à avoir
Franck Cognard, on va peut-être revenir à l'audience qui s'est déroulée tout de suite là. Est-ce que c'est Dominique Strauss-Kahn ou son avocat qui a dit non coupable?
C'est Dominique Strauss-Kahn qui a dit non coupable.
Autrement dit, c'est la première fois que l'on a entendu publiquement.
C'était très court.
La première fois qu'on a entendu publiquement la voix de l'accusé depuis son arrestation le samedi 14 mai à New York.
Absolument, c'est la première fois qu'on l'entendait. Tout à l'heure, c'est ce que vous disiez aussi, c'est l'une des rares fois où on l'a vu aussi longuement, Dominique Strauss-Kahn, puisque entre le moment où il est sorti de son 4x4 noir dans lequel il est arrivé devant le tribunal pénal de Manhattan et l'entrée du tribunal, il y a une quinzaine de mètres à franchir. Donc les photographes, les télés ont bien pu prendre cette image de Dominique Strauss-Kahn arrivant au bras d'Anne Sinclair. Les deux sont arrivés, ont reçu un accueil, disons, mouvementé de la part d'une cinquantaine, soixantaine de femmes de chambre venus de différents hôtels new-yorkais qui criaient « Shame on you, shame on you, honte à vous, honte à vous ». Ces clameurs s'entendaient jusqu'au 13e étage, jusque dans la salle d'audience qui est située plus haut. L'une de ces femmes de chambre disait « On est ici pour montrer qu'on n'est pas des prostituées, nous sommes des femmes actives, nous sommes des mères de famille et nous ne voulons pas être considérées comme des prostituées ou des femmes avec lesquelles on peut jouer. » En ce moment, sous mes yeux, devant le tribunal, il y a une sorte de regroupement des journalistes, les avocats devrait peut-être s'exprimer maintenant assez rapidement.
Oui, on dit que Ben Brafman, effectivement, va prendre la parole au South Entrance Hall. Dans cette audience qui a été très rapide, la troisième, a-t-il été question de quelque chose d'autre une fois que DSK ait dit « not guilty » ?
Pas à ma connaissance, Patrick.
Alors, il semble qu'une nouvelle audience de forme est destinée au 18 juillet. Ron Soffer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat américain au barreau de New York et à Paris. On dit qu'il y aura une audience, une nouvelle audience technique le 18 juillet. Pourquoi ? De quoi parlera-t-on dans un mois et demi ?
Alors, est-ce que à cette audience-là, une audience de plaidoirie pour plaider les incidents éventuels va être fixée, ou est-ce que les incidents vont être plaidés à cette date-là? Je n'ai pas très bien compris.
Ce n'est pas précisé. On dit prochaine audience devant la justice le 18 juillet. Quand vous dites les incidents, c'est quand la défense discute certaines preuves, certaines analyses pas complètes, critiquables du parquet?
Alors c'est aujourd'hui qu'ils ont reçu la liste de tous les éléments, y compris les éléments médico-légaux qui sont à la disposition du procureur. Ils vont être étudiés. Ils vont étudier aussi les ordonnances de perquisition qui ont été ordonnées, et ils vont, lors d'une audience de plaidoirie sur incident, essayer d'exclure certains éléments. Ils vont aussi probablement demander à obtenir ce qui reste des échantillons qui ont été prélevés dans le temps pour pouvoir procéder à leurs propres expertises.
Et comme il y aura des incidents, ils vont faire des motions devant le juge pour réclamer
absolument
ceci, cela, le procureur refusera ou acceptera?
Absolument, ils vont essayer d'exclure des éléments du dossier. Ils vont aussi peut-être demander à l'assouplissement du contrôle judiciaire de Dominique Strauss-Kahn. Après un ou deux mois d'essais, ils vont probablement plaider que ce n'est pas nécessaire d'avoir tout ce dispositif autour de lui.
Par exemple, le bracelet électronique.
Le bracelet électronique, ou que on peut éventuellement le laisser aller manger dans un restaurant.
Mais le procureur ne va pas tout donner. Par exemple, il ne va pas donner le témoignage important qui est la plainte de la victime, c'est-à-dire de la femme de chambre.
Alors, ce que la défense ne va pas recevoir aujourd'hui, c'est la liste des témoins. Ils ne vont pas non plus recevoir très certainement le transcript de la plaignante devant le grand jury. Ils vont avoir ça juste avant le procès, juste avant le témoignage de la plaignante, pour pouvoir comparer. Mais ils vont pas le recevoir aujourd'hui, et ils vont pas non plus savoir qui sont les témoins clés du parquet. Ils vont essayer d'obtenir cette information à travers l'armée de détectives privés qu'ils ont mis en place.
Jean-Philippe Deniaud.
Deux petites précisions pour compléter le témoignage de Franck Cognard à New York. Elles me parviennent par Fabienne Saintet sur le réseau social à La Baleine. La première, c'est que l'audience a dû durer 4 minutes. Second petit détail, le juge a rappelé en fin d'audience à Dominique Strauss-Kahn qu'il avait promis de se conformer à la surveillance à laquelle il est assujetti pour l'instant. Mais ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne va pas la renégocier un peu plus tard.
Antoine Garapon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un magistrat renommé qui connaissait bien les justices étrangères par rapport à la justice française. Tout ce qui se passe en ce moment à New York est tout à fait banal et conforme au droit américain. Il n'y a ni traitement spécial, ni traitement de faveur.
Absolument, avec à une nuance près de ce qu'a dit le journaliste de New York, c'est qu'à mon avis, il n'y aura pas un double procès comme en France, un procès médiatique et un procès dans la salle d'audience. Tout le procureur et la justice américaine va tout faire pour reconcentrer le procès à l'intérieur de la salle d'audience. Et ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas un processus progressif comme en France, où on accumule les preuves au fur et à mesure, qu'on discute et qu'on discute contradictoirement. Chacun se prépare pour un grand événement qui est un spectacle vivant, un spectacle de justice, qui est le procès lui-même. Et c'est là où, véritablement, on va pouvoir travailler les témoignages et aller jusqu'au bout des preuves.
Un vrai procès spectacle dans le bon ou mauvais sens du cercle, Ron Sofer, c'est-à-dire que ça peut durer quoi, au moins 15 jours, un procès comme ça, s'il a lieu?
Alors, c'est à partir d'aujourd'hui que les avocats de la défense vont pouvoir analyser leur dossier et prendre des positions. Par exemple, est-ce qu'ils vont nier une relation sexuelle ou est-ce qu'ils vont dire que c'est une relation sexuelle consentie? Ils vont finalement aujourd'hui pouvoir analyser leur position. Ils ont été paralysés jusqu'à maintenant parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y a dans le dossier. Ils vont être probablement plus loquaces à partir d'aujourd'hui. On n'est pas à l'abri à ce qu'ils commencent à laisser entendre que leur position est dans la presse. Laisser fuir quelques éléments du dossier.
Franck Cognard à New York, apparemment Dominique Strauss-Kahn est reparti chez lui à Tribeca, qui est dans le sud de Manhattan, tout comme le tribunal. Il était accompagné seulement d'Anne Sinclair, il n'y avait pas de fille de la famille Strauss-Kahn. Y avait-il un ou deux avocats avec lui? Le sait-on?
Il y avait Ben Braffman, en tout cas, c'est sûr. Je n'ai pas vu William Taylor.
Alors, on le voit à l'image maintenant, pardon.
On l'a pas vu sortir, en tout cas.
Effectivement, ouais. On le voit maintenant à l'image, parce que les images nous parviennent maintenant de cette audience avec un décalé, comme lors des deux premières audiences. Donc, en décalé, on voit effectivement que les deux avocats sont là. On n'avait pas vu, effectivement, William Taylor arriver. Ils sont tous là. Ils ont encadré M. Strauss-Kahn, qui était cravaté pour la première fois. C'est la première fois qu'on voit M. Strauss-Kahn avec une cravate depuis son arrestation le 14 mai, alors qu'il est, rentré chez lui à Tribeca, Franck Cognard.
Oui, il est rentré chez lui à Tribeca, le 4x4 noir qu'il avait amené est reparti. Vous savez, ça fait 10 minutes à pied, hein, pour aller du tribunal jusqu'à sa maison de Franklin Street. Une petite précision aussi, c'est que on a vu au palais de justice, au tribunal pénal, on a vu les deux avocats qui se sont, greffés pour l'instant sur la défense de la victime, alors pas la victime encore une fois au sens français du terme, mais la témoin principale de l'accusation, la femme de chambre, l'accusatrice de DSK. On a vu Norman Siegel, qui est un avocat très réputé ici, très connu pour la défense des minorités, la défense des droits civiques, qui était accompagné aussi de Kenneth Thompson, deuxième avocat réputé, qui sont venus renforcer cette défense, sans doute dans l'optique du procès civil, et puis pour occuper aussi un petit peu le terrain médiatique pour incarner cette femme de chambre, dont on sait toujours finalement très peu de choses.
Oui, et Kenneth Thompson d'ailleurs est un ancien procureur, c'est un homme noir américain, il a été procureur, il est maintenant avocat, il va travailler avec Siegel. Le bureau du district attorney de Manhattan, Cyrus Vance, s'est également renforcé, car en plus du procureur adjoint qui était de service le 14 mai et qu'on a vu plaider à deux reprises, Artie McConnell, il y a deux femmes procureurs adjoints qui ont rejoint le bureau de Cyrus Vance pour cette affaire. C'est John Eluzzi Orbon qui est à la tête d'une special unit dans le crime racial à New York, et c'est Anne Prunty, signe Ron Sofer, que de tous côtés, on prend cette affaire très au sérieux et ce sont un peu les top guns du parquet américain et de la Special Unit pour les crimes racistes ou sexuels qui sont aux affaires en ce moment.
Alors, les deux parties ont un intérêt de essayer de trouver une solution avant procès. Le district attorney, Monsieur Vance, n'a pas intérêt à perdre ce dossier. Si ça se termine par un acquittement, ça serait très mauvais pour lui. Et Dominique Strauss-Kahn risque 75 ans d'emprisonnement. Enfin, s'il est condamné, il peut être condamné à une peine de 10 à 15 ans d'emprisonnement. Donc les deux parties ont un intérêt à négocier, sauf que ce dossier est un peu particulier parce que la totalité du dossier du procureur repose sur le témoignage. Alors, contrairement à ce qui se passe en France, la plaignante doit témoigner sous serment. Elle risque des peines extrêmement lourde si elle ment. Elle va être interrogée vigoureusement par les avocats de la défense qui pourront la confronter avec les éléments qui ont pu être apportés par l'armée des détectives privés. Donc ça ne va pas être facile pour elle. Donc éventuellement ça peut se négocier. Le procureur, contrairement à ce qui se passe en France, le procureur peut retirer l'inculpation, l'ordonnance de renvoi à n'importe quel moment et clôturer le dossier s'il veut. Il peut aller aussi jusqu'au bout.
Sérieusement, ça a de la pression sur les épaules aussi, Franck Cognard, parce qu'il vient de perdre un procès assez médiatique à New York. Absolument. C'est justement une affaire de viol avec deux policiers acquittés.
Oui, c'était cette semaine, on a appris l'acquittement de ces deux policiers qui étaient accusés de viol sur une jeune femme. Cette affaire lui porte un coup. Vous savez que c'est un jeune procureur, ça fait pas très longtemps qu'il est ici, sa réélection est prévue pour 2013. Donc il a tout intérêt, quand il y a des dossiers assez lourds comme ça, effectivement, à incarner vraiment l'accusation et à aller au moins, si ce n'est au bout, c'est-à-dire à une reconnaissance de culpabilité lors d'un procès par le jury, ou au moins un plea bargaining, c'est-à-dire à se marchandage un petit peu entre la défense et l'accusation pour obtenir une peine pour DSK. Un acquittement, s'il y a procès, serait pour lui une énorme défaite.
On vous interrompt. Est-ce qu'on peut écouter Benjamin Brafnan qui est en ce moment en train de prendre la parole sur le perron du tribunal ?
Leur soutien à M. Strauss-Kahn depuis le début de cette affaire. Ils ont également prié pour qu'il n'y ait pas de jugement négatif dans cette affaire et M. Strauss-Kahn devrait bénéficier d'un procès tout à fait équitable. Dans le cadre de cette procédure, les choses vont maintenant continuer. Nous tenons à remercier les gens de la Cour qui ont consenti des efforts très importants. Nous avons désormais décidé de ne pas revenir sur le fond de cette affaire, sur les faits en dehors du prétoire. Nous allons continuer à défendre M. Strauss-Kahn dans cette affaire, mais nous le ferons en interne. Il a aujourd'hui décidé de plaider non coupable, ce qui est une déclaration tout à fait claire, à savoir qu'il nie toutes ces accusations. Et la seule autre chose que nous tenons à vous dire, c'est ce que nous avons déjà dit lors de sa première comparution dans cette affaire, c'est que notre jugement, une fois que les éléments de preuve ont été examinés, eh bien nous verrons qu'il n'y a aucun élément qui permettra de démontrer qu'il y ait viol ou volonté de faire subir à la victime ce qu'elle aurait subi. Voilà, nous n'allons pas répondre à aucune question maintenant. Merci beaucoup.
Voilà, c'était Benjamin Brafnan, traduit en direct par nos confrères de iTélé, l'avocat new-yorkais, flanqué de William Taylor, son collègue, sur le perron du tribunal South and Trans de Manhattan. Antoine Garapon, cette sortie des avocats, pour le coup, est semblable aux sorties des avocats français qui, à la sortie d'une audience au tribunal de Paris, vantent, on va dire, l'innocence de leurs clients injustement accusés.
Tout à fait, sauf qu'encore une fois, il l'a bien dit, moi je vais jouer le jeu interne, je vais me battre en interne. Ce qui est important aux États-Unis, c'est de gagner son procès et tout se joue d'abord dans la salle d'audience. Je pense qu'en France, il aurait voulu plus répondre aux questions, mobiliser l'opinion, plus jouer ce procès parallèle médiatique qui est quelque chose qui est beaucoup moins puissant aux États-Unis parce que, comme il l'a dit dans ses propres mots d'ailleurs, le but de la justice américaine, c'est de fournir un procès équitable. On doit un procès équitable à M. Strauss-Kahn.
Antoine Garapon, je crois que c'est l'ancien procureur Kenneth Thompson, qui est maintenant un des avocats de Nafissouta Diallo, qui s'exprime sur le perron de l'audience. On va l'écouter.
Lorsque les conseils de la défense nous disent que cela était consenti, eh bien, c'est totalement faux. La victime, tiens, à ce que vous sachiez que tout le pouvoir, tout l'argent et toute l'influence de Dominique Strauss-Kahn aux quatre coins du monde ne changeront en rien la vérité quant à ce qu'il lui a fait dans cette chambre d'hôtel. Cette vérité apparaîtra au grand jour. Et cette campagne de salissement qui est lancée à l'heure actuelle, elle n'y croit pas. Elle défend sa propre dignité. Elle veut s'autodéfendre en tant que femme. Elle représente toutes les femmes, tous les enfants de par le monde qui ont subi des abus sexuels ou des violations sexuelles. C'est une femme particulièrement courageuse. Elle est venue dans ces pays pour vivre, pour profiter de la promesse des États-Unis, et elle tient à remercier tous ceux et toutes celles qui ont prié pour elle et qui l'ont soutenue. Avez-vous des questions ?
Alors donc, c'est l'ancien procureur Thompson, qui est maintenant avocat, qui est un célèbre avocat noir américain qui défend généralement les causes raciales et civiques, qui est maintenant un des avocats de Nafissouta Diallo. C'est d'ailleurs la première fois que l'un des avocats de la plaignante s'exprime sur le fond en public. Jusqu'à présent, Jeff Shapiro avait simplement réfuté de très loin les arguments des avocats de Monsieur Strauss-Kahn. On n'avait encore jamais vu apparaître ni Norman Siegel, ni Kenneth Thompson, qui sont des gros bonnets du barreau new-yorkais. Eh bien, Kenneth Thompson, ancien procureur noir, est en train de répondre aux questions des confrères américains sur le perron du tribunal de New York. Franck Cognard, c'est la première fois qu'un avocat direct de Nafissouta Diallo défend cette jeune femme, défend sa vertu et défend la véracité de ses propos et de ses accusations.
Alors, on avait juste entendu, je crois que c'était sur CNN il y a une dizaine de jours, le premier avocat, enfin chronologiquement, on va dire, qui était Jeffrey Shapiro, qui avait, mais c'est vrai, sans aborder véritablement le fond du dossier, qui avait quand même défendu la parole de sa cliente dans cette affaire, face effectivement à ce que plaidait la défense de Dominique Strauss-Kahn, qui était la relation sexuelle consentie. Là, Kenneth Thompson, cette fois, il est encore plus clair, il va encore plus loin dans ce qu'il raconte en ce moment à nous, médias française et américain installé ici, c'est quand il dit voilà, ce n'est ni le pouvoir, ni l'argent, ni l'influence de Dominique Strauss-Kahn qui changeront grand chose à la vérité dans cette affaire. Il parle d'une femme courageuse dont on ne sait toujours rien. Elle vit toujours protégée par la police ici à New York. Personne n'a réussi à la voir, on ne sait même pas mettre un visage sur ce nom, on ne sait pas réellement à quoi elle ressemble. Tout ce qu'on sait d'elle maintenant, c'est cette parole finalement qu'incarnent ces trois avocats, donc Jeffrey Shapiro, Kenneth Thompson, l'ancien procureur, et puis Norman Siegel, figure réputée, ultra réputée de la défense des minorités et des droits civiques.
Ron Sofer, nous sommes dans une réalité américaine là, qui vient de se camper socialement comme jamais dans ce procès. Dominique Strauss-Kahn est arrivé sous les huées des femmes de ménage new-yorkaises qui, à l'appel de leur syndicat, ont manifesté contre les clients indélicats. Et l'un des avocats de la plaignante est un ancien procureur noir, avocat au bureau de New York, et il défend une femme bafouée, venue en Amérique trouver un peu de liberté et de pain pour élever sa fille. On arrive là dans une dimension sociale et raciale peut-être qui va parler aux Américains et aux New-Yorkais.
Alors, on voit que la présomption d'innocence, en tant que Français, je suis choqué de voir cette manifestation qui viole la présomption d'innocence. Ça n'est pas très loin. Mais ce qu'on vient d'entendre de la part de l'avocat de la défense est quand même très important. Il a dit que son client nie les faits. Alors, ce que cela signifie, c'est que son client ne lui a pas avoué d'avoir commis les faits. Parce que si c'était le cas, il aurait dit « mon client est simplement pas coupable ». Donc, quand il a dit « Dominique Strauss-Kahn nie les faits », ça veut dire que ils reconnaissent pas le crime, et ce n'est pas simplement de dire qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour le condamner, mais il est innocent.
Donc, il est innocent, mais on peut comprendre que c'est compatible avec éventuellement plaider une relation consentie. Il nie qu'il y ait eu violence, en fait, il nie qu'il y ait eu tentative de viol.
Moi, je n'ai pas entendu Braffman parler d'une relation consentie.
Non,
il
mais
a
c'est
dit
cohérent.
Qu'il n'y avait pas viol.
Voilà,
il n'y avait
mais
pas de viol.
C'est cohérent avec le propos que Braffman a tenu.
C'est cohérent, mais Braffman s'est laissé l'option de choisir entre les deux. Il n'a pas encore choisi, il n'a pas encore dit, il a dit qu'il n'y avait pas de viol.
Fabien de Sintès, bonjour.
Bonjour.
Alors vous étiez donc dans cette salle d'audience, ça a duré 4 minutes cette audience, racontez-nous.
Bah écoutez, effectivement ça a été très court et ça a même pris un certain nombre d'entre nous un petit peu par surprise. Dominique Strauss-Kahn donc est arrivé costume sombre, l'air plutôt fatigué, entouré de moins de policiers que lors de la dernière audience. Il s'est assis immédiatement entre ses deux avocats et cette fois donc pour ce moment qui était un moment important, il y avait l'avocat Taylor donc, mais aussi comme vous l'avez dit, il y avait Ben Braffman qui était là. C'est la greffière qui a lu les 7 chefs d'accusation qui sont retenus contre Dominique Strauss-Kahn et avec ses deux avocats, il s'est levé. Que plaidez-vous à demander le juge, logiquement. Et Dominique Strauss-Kahn lui-même a dit « not guilty ». Dans la salle, il y avait également Anne Sinclair, qui est arrivée un petit peu avant en tailleur sombre. Et puis Vanessa, qui est l'une des filles de Dominique Strauss-Kahn. La dernière fois, vous vous souvenez, lors de la dernière audience, c'était l'autre fille, Camille, de Dominique Strauss-Kahn qui était là. Alors, ce qui est intéressant pour l'image, si vous voulez, c'est que sur ce même banc, c'est-à-dire le premier banc dans la salle d'audience, il y a deux hommes qu'on a eu d'abord un petit peu de mal à identifier et qui sont Norman Siegel et Kenneth Thompson. Ces deux hommes sont les avocats civils potentiels de la victime présumée qui normalement n'interviennent absolument pas dans le stade pénal et ne devraient pas d'ailleurs trop faire parler d'eux dans les jours qui viennent, mais qui évidemment sont intéressés à observer ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors vous avez entendu un petit peu, je crois, tout ce que les avocats ont pu commencer à dire tout à l'heure en sortant. Concrètement, en fait, ce qui s'est passé dans ces 4 petites minutes dans la salle d'audience, c'est que la défense a demandé au juge jusqu'au 18 juillet prochain pour pouvoir étudier les preuves qu'on va lui remettre maintenant. Le délai maximum, si vous voulez, pour l'étude des preuves et pour pouvoir déposer ce qu'on appelle les motions, il est de 45 jours. Là, donc, on a 42 jours, donc on est presque au maximum pour que la défense puisse déposer ces fameuses motions et pour discuter, donc, pied à pied, et c'est bien ça le processus qui va démarrer maintenant, discuter pied à pied chacune des preuves qui ont pu être présentées à la défense et qui sont comprises, donc, dans ce fameux Discovery Package dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Et donc, à partir de maintenant, si vous voulez, la défense va avoir dans les mains, notamment, et c'est la pièce maîtresse probablement de ce dossier, les relevés ADN, les conditions du relevé d'ADN, où on a trouvé de l'ADN de Dominique Strauss-Kahn, dans la chambre, à quel endroit, sur le col de la chemise ou pas, de la présumée victime, etc. Donc c'est maintenant, si vous voulez, que tout ce travail va commencer, après ces 4 minutes symboliques d'audience, on va dire, qui viennent de se dérouler devant nous.
Merci Fabienne. Jean-Philippe Deniau.
Oui, question à Maître Sauffer, on est toujours dans la symbolique. Est-ce que le fait que Dominique Strauss-Kahn se soit lui-même levé et lui-même plaidé non coupable est une importance dans la procédure ?
Ça aurait pu, il aurait pu plaider non coupable à travers son avocat. Voilà. Je pense que c'était symbolique pour démontrer que c'est lui qui plaide. Il dit je ne suis pas coupable. Je suis un peu étonné que ses avocats n'ont pas au moins essayé d'empêcher les conférences de presse qui se sont déroulées en dehors du tribunal, mmh, avec l'avocat de la plaignante qui essaye de faire, c'est de polluer l'esprit des citoyens qui habitent New York, parce que c'est parmi ces citoyens que les jurés vont être choisis. Mmh. On aurait pu penser qu'il viendra devant le juge pour demander à ce que le juge interdise des conférences de presse.
Mais pourquoi le ferait-il? Puisque lui-même en tient une, lui-même s'exprime publiquement, Braffman.
Mais il aurait pu le demander. Il s'est pas exprimé comme l'avocat de la plaignante. Mais ils ont décidé d'avoir cette stratégie. On va comprendre après, dans quelques jours, pourquoi.
Antoine Garapon, l'arrivée en tout cas publique de Kenneth Thompson, ancien procureur noir et aujourd'hui l'un des avocats de la plaignante, de Mme Nafissatou Diallo, ça donne une dimension sociale à cette affaire à New York.
Ah, tout à fait, c'est-à-dire qu'on voit très bien se dessiner les deux stratégies de la défense et de l'accusation. Et de l'accusation, la défense veut particulariser, dire « moi je me battrai dans le tribunal » sur des preuves et en disant c'est une affaire très très particulière comme une autre, alors que la défense va dire, la stratégie d'accusation et ce qu'on appellerait en France la partie civile, va universaliser, va dire dans le fond, cette affaire est une illustration des rapports entre les noirs et les blancs, entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les faibles, et donc elle est déjà d'ailleurs, dans ce qu'a dit Thompson, on voit très bien cette stratégie stratégie-là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est in fine, comme le disait Ron Soffer, des citoyens de New York qui vont constituer en jury, qui vont trancher, et donc eux, il faut qu'on leur raconte une histoire. Et à partir de maintenant, il y a finalement deux tâches. Tout d'abord, réunir des éléments de preuve ou les contester, les invalider. Mais ensuite, quelle histoire on raconte à partir de ces éléments de preuve? Et cette histoire, cette manière de construire une theory of the case, comme disent les Américains, a déjà commencé, on vient de l'entendre.
Pour conclure, je voudrais vous livrer une autre hypothèse. Elle n'était pas encore arrivée jusque-là. C'est un avocat pénaliste américain qui s'appelle Evan Fisher, qui est connu au barreau de New York, qui la livre dans le Figaro. Il est très critique sur la stratégie Braffman. Il estime que personne ne va croire à New York à une relation consentie le 14 mai. Et lui, il dit que, après tout, DSK, assisté d'un grand psychiatre, aurait pu plaider et pourrait plus tard plaider un acte compulsif, une addiction. En fait, un trouble mental qui, en fait, quand on plaide un trouble psychiatrique, eh bien, le traitement, il est psychiatrique, il n'est pas pénitentiaire. Et Evan Fisher dit que ça aurait pu être une hypothèse sérieuse. Qu'est-ce que vous en pensez, Ron Soffer?
Evan Fisher est un ami de longue date que je connais depuis longtemps, depuis presque 20 ans. C'est un excellent avocat. Il sait ce qu'il dit. Si véritablement les tests ADN démontrent qu'il y avait des relations sexuelles et que la défense de Dominique Strauss-Kahn, c'est que c'était des relations sexuelles consenties, il va avoir une difficulté parce qu'il va arriver devant le jury populaire avec un capital sympathie presque à zéro. Un homme de stature de Dominique Strauss-Kahn qui accepte d'avoir des relations sexuelles avec la femme qui vient nettoyer sa chambre, ça va être une défense difficile. Sauf si véritablement ils arrivent à démontrer qu'elle a menti de toute pièce et qu'ils trouvent des éléments qui déstabilisent son témoignage.
Et donc, pour conclure, l'hypothèse Fisher a peut-être de l'avenir plus tard.
Je pense que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir.
Merci pour avoir tous collaboré à cette émission spéciale. Merci à Daniel Mermet de vous avoir cédé de son temps. Franck Cognard et Fabienne Saintès étaient à New York. Merci à Ron Soffer, merci à Antoine Garapon. Il est tout juste 16h et vous écoutez France Inter. Les informations, Corinne Audouin.
Pour la défense de Dominique Strauss-Kahn, aucun élément ne prouve qu'il y a eu viol. Pour les avocats de la plaignante, il n'y a pas de complot visant à faire tomber DSK. Sans surprise, les deux parties sont restées sur leur position au terme d'une audience express au tribunal pénal de New York. Les avocats se sont livrés à ces brèves déclarations sur les marches du tribunal. Vous le savez si vous écoutez France Inter depuis une demi-heure, l'ancien patron du FMI a annoncé qu'il plaiderait non coupable des accusations de crimes sexuels portées contre lui. Le juge a fixé la date de la prochaine audience au 18 juillet. DSK était entré dans la salle d'audience au bras de son épouse Anne Sinclair sous les cris de « honte à vous » lancés par une centaine de manifestantes, des femmes de chambre de grands hôtels de New York en uniforme. DSK a immédiatement regagné son domicile de Manhattan après l'audience et suite au développement de cette décision de justice, donc de cette plaidoirie non coupable de Dominique Strauss-Kahn dans nos éditions de 18 et 19 heures. Le concombre espagnol n'était pas à l'origine de l'épidémie due à la bactérie tueuse. Eh bien, les coupables ne sont peut-être pas non plus les graines germées produites par une ferme bio dans le nord de l'Allemagne. Les premiers tests menés sur ces graines, soupçonnées d'être à l'origine de la contamination, sont négatifs. En attendant de trouver la trace de la bactérie, la Commission européenne annonce des compensations financières pour aider les producteurs de fruits et légumes. Victimes collatérales de l'épidémie, les ventes de la filière ont énormément chuté en Europe. Le détail des mesures sera donné demain au cours d'une réunion extraordinaire des ministres de l'Agriculture à Luxembourg. Des aides aussi pour les agriculteurs victimes de la sécheresse. La France devrait pouvoir débloquer des aides nationales allant au-delà de ce qui est autorisé d'ordinaire par l'Union européenne. Situation très tendue sur le plateau du Golan. Hier, les soldats israéliens ont tiré sur des Palestiniens qui tentaient de franchir la ligne de cessez-le-feu entre Israël et la Syrie. D'après un nouveau bilan, 23 personnes dont un enfants ont été tués et 350 autres blessés. Les soldats israéliens se préparent à de nouvelles violences aujourd'hui. Au lendemain des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes, où une fillette de 9 ans a été grièvement blessée, Claude Guéant s'en est pris aux bandes qui tendent des guet-apens à la police. Mais il s'est dit incapable à ce stade de se prononcer sur l'origine du projectile qui a blessé l'enfant. Selon ses parents, un tir de flashball, un tir de la police donc, pourrait être à l'origine de ces blessures, ce que la police dément en l'état actuel des informations. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. La petite fille se trouve toujours dans le coma. Le député socialiste de l'Essonne, Manuel Valls, demande une réunion de crise sur ce quartier des Tarterets, gangréné, dit-il, par un système mafieux et des voyous qui agissent avec un sentiment d'impunité totale. Et puis Didier Deschamps continuera à entraîner l'OM la saison prochaine. C'est ce que confirme le président du conseil de surveillance du club de football marseillais. Sous la direction de Didier Deschamps, le club a remporté 4 trophées en 2 saisons, dont le titre de champion de France en 2009-2010.
Écoutons Laura nous parler de ses projets.
Je viens juste de trouver le poste de mes rêves. C'est l'avenir dont j'ai toujours rêvé. Et l'avenir pour moi, c'est de faire vivre et partager ma passion, transmettre des valeurs, des savoirs, me consacrer à la réussite de chacun de mes élèves. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir enseignante.
L'Éducation nationale recrute 17 000 personnes. Pourquoi pas vous ? Renseignements et inscriptions jusqu'au 12 juillet sur l'éducationrecrute.fr. C'était un message du ministère chargé de l'Éducation nationale.
Ceci est un message de Bleu Ciel d'EDF.
Prends cet artisan.
J'avais besoin de quelqu'un pour mes travaux de chauffage et d'isolation.
Mais non, appelle plutôt celui-là.
Mais qui ? J'étais perdue. Et puis, un conseiller EDF Bleu Ciel a pu me mettre en relation avec des professionnels qualifiés, les partenaires Bleu Ciel d'EDF. Mes travaux de chauffage et d'isolation ont été réalisés en toute sérénité. C'est important, la sérénité.
Appelez le 3929, 5 centimes TTC la minute, hors surcoût éventuel selon opérateur. Ou rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ouah, j'avais l'habitude de nager à la piscine. Ensuite, j'en ai mis une dans mon jardin. Puis j'ai agrandi le jardin pour mettre une piscine olympique, un peu plus grande. Allez, je nage 3000 mètres chaque matin, toujours en une seule longueur. C'est comme ça, j'ai jamais su faire demi-tour.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche ?
Attention, vendredi dernier, le jackpot n'a pas été gagné. Ce mardi, il atteindra près de 54 millions d'euros. Voir règlement sur fdj.fr.
FDJ, jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
France Inter et Château de Versailles Spectacle présentent, du 18 juin au 3 septembre, les grandes eaux nocturnes. Dans le jardin, la poésie d'une promenade mise en eau, en scène et en lumière, ponctuée de musique baroque et illuminée par un feu d'artifice final. Retrouvez les grandes eaux nocturnes de Versailles dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter présente Une séparation, un film d'Asrar Faradi, Ours d'or au Festival de Berlin. À Téhéran aujourd'hui, un couple au bord de la séparation est entraîné dans un tourbillon judiciaire aux multiples rebondissements. Un mélodrame aux allures de thriller. Au cinéma le 8 juin. Retrouvez Une séparation dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
16h05 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon et le Carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous, j'ai le très très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Legrand. Je veux dire qu'on ne présente plus, mais je vais d'abord le saluer. Bonjour Michel.
Bonjour Frédéric.
Enfin quand même, au cas où il y aurait des bébés qui nous écoutent, ben voilà, grand pianiste, oui, chanteur, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, voilà, c'est dit, tout ça.
Écoute, quel bonheur de te retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Eh ben de même. Alors cher Michel, ben oui, depuis la Corse, festival avec Ivry Gitlis, depuis un certain bateau, oui. Croisière musicale,
oui,
tout ça.
Puis, oui, je me rappelle très bien.
télévision, Jacques Chancel. Mermoz. Voilà, c'est ça, tout ça, c'est très bien. Et puis, je dis toujours, nous sommes toujours vivants, c'est ça qui est bien. Voilà. Et nos auditeurs...
Et puis toujours en pleine forme, et puis toujours plein d'idées, plein de désirs.
Ben, on va tâcher partager de tout ça, tout ça. Alors, cher Michel, vous venez parce où tu viens, parce que maintenant tu m'as dit tu, je vais être obligé de revenir à tu, hein, parce que Chancel a toujours dit, il faut dire vous, mais enfin bon, voilà, trop tard maintenant. Alors, tu viens parce qu'il y a la parution des suites cinématographiques, donc des musiques de toi, mais arrangées sous forme symphonique, on va dire, qui peuvent être jouées au concert, tout simplement.
Oui.
Et c'est un très joli disque. On a entendu un extrait déjà avec Ivry Gitlis ici, Don Quichotte, hein, parce qu'il partait pour le Japon. Alors, ben, j'espère qu'il va revenir bientôt quand même.
Bien sûr.
Aventureux.
Ah oui, mais tu sais, j'ai emmené Ivry souvent comme ça dans les séances de films pour le cinéma. Il joue avec une telle intensité, une telle douleur, une telle merveille que je ne peux plus m'en passer.
Eh ben écoutez, on va l'entendre tout de suite, dans quelques minutes plutôt. Mais pour l'instant, le concertino, un été 42 tout simplement, parce que nous sommes le 6 juin, donc histoire du débarquement, période grave et héroïque à la fois.
Circonstance.
Alors justement, un des thèmes les plus fameux, sorti de ta plume, Michel, c'est cet été 42, tu en as fait un concertino. La soliste, c'est Daniel Laval, et on va entendre l'orchestre philharmonique de Monte Carlo dirigé par Pascal Véro. Pour une fois, c'est pas toi qui dirige.
Non, eh ben bien sûr, c'est bien.
Bien sûr, ça prouve que la musique...
On glisse le bâton à quelqu'un.
Ça prouve qu'elle intéresse les autres et qu'elle devient universelle, ta musique.